Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
La transition énergétique et écologique des entreprises, oui, mais comment ? La parole est aux dirigeants. Tour d'horizon des possibilités à la rencontre de ceux qui la font et la vivent.
Chez nous, les valeurs, c'est la passion, l'ambition et l'humanité. La passion des hommes et des produits, l'ambition d'être un référent dans notre métier et l'humanité, parce que l'entreprise, c'est un centre de création de valeurs humaines, culturelles.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, l'urgence climatique et la raréfaction des ressources est l'affaire de tous. En particulier pour les entreprises qui s'inscrivent dans des secteurs énergivores, consommateurs d'eau ou émetteurs de gaz à effet de serre. La décarbonation reste donc un enjeu essentiel pour l'industrie et tout spécialement pour notre entreprise du jour, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, spécialisée dans la production et le conditionnement de produits alimentaires liquides. J'ai le plaisir de recevoir son président Emmanuel Vasnex, un dirigeant qui engage pleinement sa société dans la transition énergétique et écologique. Son ambition ? Mettre l'économie au service des hommes et de l'environnement. Beau et vaste programme. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Écoutez,
le retour, donc c'est très sympa.
On est bien d'accord. Alors pour débuter, je vais vous demander de me faire un petit portrait de vous, votre carrière et votre société.
Donc moi, je m'appelle Emmanuel Vasnex, je suis le président d'une entreprise qui s'appelle La Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est une entreprise qui est ancienne, qui date de 1909, qui au départ était une laiterie, et puis ensuite les péripéties de la vie ont fait qu'on a été obligé de changer de métier, de devenir un conditionneur de liquide alimentaire, de jus de fruits, de boissons gazeuses, de jus végétaux, et puis on a également réalisé des acquisitions dans d'autres domaines, comme par exemple les salades quatrième gamme, les fruits découpés. Donc, c'est une entreprise qui aujourd'hui emploie 2000 personnes et présente sur 8 territoires. On est des gens très attachés au lien avec le monde agricole, qui sont les racines de nous tous, et puis aussi les racines de notre alimentation de demain. Et puis également très attentive au territoire. Ce pays, c'est le pays de la diversité culturelle, gastronomique, de la biodiversité également, où nos producteurs sont avant tout les sentinelles de l'environnement. Et donc, on s'inscrit, nous, dans les développements de ces territoires. Donc, on investit beaucoup. On investit plus de 300 millions d'euros actuellement, malgré la crise Covid, dans des filières, dans des nouveaux outils de production qui sont plus économes au niveau énergie, qui préparent la transition écologique. Et puis, également, dans tout ce qui est transport, puisque moi, je pense que le transport est aussi une des causes importantes des problématiques qu'on peut avoir au niveau environnemental et qu'il faut absolument travailler, réfléchir, rationaliser. Moi, personnellement, je suis un homme engagé parce que je suis un passionné d'économie, je suis un passionné d'alimentation et puis je suis aussi un passionné du collectif et du collaboratif. Je pense qu'il faut allier nos compétences pour être plus fort vis-à-vis de ce qui nous attend comme challenge, qui sont le climat en est un, mais il y en a d'autres. Et je pense que c'est ensemble qu'on y arrivera pour mieux servir effectivement le bien commun et être au service finalement des citoyens, des consommateurs, des gens en général, pour qu'on travaille de mieux en mieux ce vivre ensemble qui aujourd'hui est quand même un petit peu mal ballotté.
On vous sent effectivement très très engagé, Emmanuel. On parle de transition énergétique et écologique, vous l'avez bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands enjeux, vous, dans votre secteur ? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de ces enjeux ?
Le premier de ces gros enjeux, c'est effectivement l'urgence climatique qui est au cœur de notre débat. Alors, derrière l'urgence climatique, c'est aussi le fait que certaines productions que l'on réalisait dans certains pays ne pourront plus se faire. Très clairement, la France, comme d'ailleurs l'Union européenne, s'est fixé un objectif de la neutralité carbone à 2050.
Oui, on peut dire que vous avez débuté, je crois, en 2011 et l'objectif, c'est 2050. Donc, c'est vraiment sur une quarantaine d'années.
Oui, tout à fait. Nous, c'est marrant parce qu'en fait, on a fait de la RSE et du développement durable sans le savoir parce qu'on pensait qu'avant tout, c'était d'une part du bon sens.
C'était vos convictions.
C'était des convictions. Et puis d'autre part, que c'était aussi de l'économie. Quand on évite des transports, quand on change certaines façons de travailler, c'est pas forcément les faire pour plus cher. C'est les faire effectivement parce qu'on va mieux les faire au travers de ça. Ensuite, je dirais que dans ces engagements, on a bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a des transitions qui sont très très fortes sur l'utilisation de nouvelles énergies, sur la récupération d'énergie fatale. On travaille dans les salades et on travaille actuellement sur des serres du futur dans lesquelles on va réutiliser de l'énergie fatale qui va venir de nos unités de production.
J'aimerais que vous nous parliez du réseau Colibri parce que ça fait partie de vos démarches. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce réseau ?
Alors bien sûr, donc le réseau Colibri, bah c'est... Alors pourquoi le colibri ? Parce que le colibri, vous savez, c'est ce petit oiseau et ce dessin animé qui effectivement, il y a l'incendie dans la savane, tous les animaux s'en vont, sont effrayés, et le colibri va chercher goutte par goutte, et il dit « je fais ma part ». Derrière ça, il y a de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi des partenaires. On leur fait passer aussi ces messages-là, de l'importance que chaque individu a dans l'effort commun qui doit être effectué. Et si chacun fait son petit bout, l'effort commun sera beaucoup moins douloureux pour certains que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Eh bien, c'est le colibri, c'est ça. C'est-à-dire que chacun, partout, doit faire sa part, doit ramasser le bout de papier qui traîne, doit éviter la consommation d'eau, doit fermer la porte.
On a besoin d'une prise de conscience.
Oui, et là, on est dans l'éducation, la pédagogie et effectivement de montrer comment les choses avancent.
Donc là, dans cette démarche, ça fait partie de votre démarche, ce réseau Colibri, vous êtes basé sur 5 grands axes, c'est bien ça ?
Tout à fait. Donc, ces 5 grands axes, en fait, sont d'une part un axe de gouvernance. Alors, nous, on défend effectivement notre modèle de gouvernance qui est une gouvernance familiale, une gouvernance inscrite dans la durée, qui n'a pas peur de prendre des risques et ses responsabilités. Le deuxième point, c'est qu'on est dans la performance. Performance, ça ne veut pas dire être le moins cher ou être le mieux. Ça veut dire être le plus optimisé par rapport aux demandes qui nous sont faites. Ça repense en permanence nos modèles de production, nos organisations, mais ça ne repense pas notre système de valeurs. Chez nous, les valeurs, c'est la passion, l'ambition et l'humanité, la passion des hommes et des produits, l'ambition d'être un référent dans notre métier, aller chercher finalement mieux que mieux en permanence, et l'humanité, parce que l'entreprise, c'est un centre de création de valeurs humaines, culturelles. Ensuite, on a un point qui est très important dans notre politique RSE, c'est le lien. Le lien, c'est vous expliquer, vous faire comprendre pourquoi à un moment, on est différent des autres et qu'on a des choses à faire valoir. C'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, nos fournisseurs, c'est ce qu'on fait avec nos collaborateurs, c'est ce qu'on fait avec nos producteurs de lait. Expliquer.
C'est le conseil que vous donneriez à d'autres entreprises pour essayer de...
Ah, c'est clair. C'est clair, il faut s'ouvrir, il faut expliquer, il faut partager et il ne faut pas avoir peur que tel et tel élément devienne un élément de concurrence, de renégociation de prix. Moi je suis issu de ça, hein. C'est-à-dire que globalement, moi j'étais un vendeur de lait premier prix, j'aurais dû mourir et je me suis enrichi et nourri grâce et avec les autres. Et ça nous permet d'être dans une posture où comme nous on est ouvert, les autres le sont avec nous. Et donc on voit des choses et donc on arrive à apprendre et on arrive à progresser et à construire. Et puis ensuite, deux autres piliers, c'est d'une part l'alimentation durable, saine, bonne pour la santé, issue de nos territoires et qui soit dans la durabilité en termes de rémunération. On a une agriculture qui est dans une situation extrêmement compliquée et qui est sous perfusion. Et puis le dernier point, c'est l'environnement. Et là, l'environnement, c'est tout le travail qu'on mène. Et là encore, il y a des nouveaux outils au travers des startups, au travers des nouvelles technologies qui nous aident et qui nous font avancer de façon importante. Mais il y a surtout un point, c'est un moment, l'intelligence collective. Quand on se met autour d'une table et qu'on dit comment on consommera un peu moins d'eau, à chaque fois qu'on sort de la réunion, on a consommé moins d'eau. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver. Et tous ces systèmes très technocratiques aujourd'hui qui alourdissent en permanence notre charrette qu'on a attirée, eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Il faut qu'on refasse confiance aux gens, qu'on refixe effectivement des objectifs qui soient très clairs. Quand vous mettez tout ça en œuvre, eh bien, vous avez une entreprise qui sort du lot, une entreprise qui vend du savoir-faire, une entreprise qui arrive à se développer, une entreprise qui a inscrit aussi, et moi, je suis convaincu que c'est à la France de nourrir la France, que c'est à la France d'exporter des produits. C'est pas une stratégie, mais c'est effectivement une opportunité. Et demain, je vous ai dit tout à l'heure que je vendais de la salade et qu'on était en train de mettre au point des serres du futur. Jamais je ne vendrai un kilo de salade aux Américains depuis Orléans. Par contre, je leur vendrai peut-être un jour des serres de haute technologie.
Alors, après tout ça, donc tout ce que vous venez de nous dire, ça fait, on va dire 80% du boulot. Mais on a quand même les 20% supplémentaires qui parlent du nerf de la guerre. C'est que tous ces changements, ça a un coût, que ce soit sur le plan humain ou financier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà quand même faire un bilan ou nous parler de bénéfices par rapport à ces investissements ?
Le regard que je porte, c'est que dans tout domaine, il faut avoir un regard d'investissement. C'est-à-dire que globalement, il faut considérer que quand on emploie, on recrute des compétences, quand on forme ses compétences, quand on investit dans des machines, quand on investit dans des filières, eh bien, si on dit qu'est-ce que ça va donner à la fin de l'année, combien l'euro que j'ai mis, il va en rapporter 2, etc., ça sera un échec. Par contre, quand on se projette et qu'on dit, on sent que la tendance de fond, elle est vers le végétal, elle est vers moins de pesticides, vers du bien-être animal, vers une consommation énergétique qui est plus faible. Là, on a le temps et on a effectivement ce raisonnement dans le moyen et long terme.
Et alors quand même, de votre côté, pour conclure cette émission, est-ce qu'on peut parler de bilan positif aujourd'hui de cette transition ?
Mais oui, parce que tout ce qui nous permet d'être plus fort, plus intelligent et meilleur,
C'est bon pour nous, c'est bon pour l'animation qu'on va faire, c'est bon pour fédérer, pour rendre de la fierté à nos collaborateurs et à nos territoires. Tout ça, c'est effectivement des bonnes questions qu'on aurait peut-être dû d'ailleurs se poser bien avant. Vous voyez, un des problèmes qu'on a par exemple sur l'eau, c'est que pendant des années, on a considéré que l'eau coûtait rien. Et aujourd'hui, c'est une ressource principale parce que si on n'a pas d'eau, on vit plus, etc. Donc là, on est en train de s'en occuper et on est en train de se rendre compte que l'eau, elle coûte quelque chose. Et que si l'eau, elle coûte quelque chose, bah, c'est finalement pas si idiot que ça de l'économiser. Et moi, je suis un éternel optimiste. Je suis convaincu que mon pays est absolument génial et formidable. Mais on se rend compte de la richesse, effectivement, de ce territoire quand on prend le temps. Donc voilà. Donc bien sûr, je suis un grand optimiste et je suis à la disposition de quiconque veut traiter de ça. Et par contre, j'ai pas la prétention de détenir la vérité. Donc, j'admets tout à fait qu'on soit pas d'accord avec ce que je peux dire à certains moments.
Mais en tout cas, quand on a la motivation, c'est déjà gagné. En tout cas, vraiment, merci. Merci infiniment, Emmanuel Vasnex, de nous avoir communiqué, justement, cette motivation et cette envie. Merci de votre témoignage. Merci pour votre expérience parce que voilà, toutes les autres entreprises qui nous écoutent auront peut-être grâce à vous envie de s'engager aussi. Donc voilà, ceux qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast. Engagez-vous, vous aussi, la transition énergétique et écologique, c'est possible aussi dans votre entreprise. Je vous dis à très bientôt Emmanuel et merci encore.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.